Chapitre 5. Une confrontation émouvante. Le lendemain, vers 10 h du matin, Florent Tavrier se trouvait dans son cabinet de travail avec sa femme, qu'il avait mise au courant du coup de téléphone échangé la veille au soir entre Jacques Moret et lui. « Il est évident, disait-il, que pour m'avoir demandé d'une façon aussi pressante et aussi confidentielle un entretien aussi rapproché, il s'agit de choses très graves. Qui sait si lui-même n'a pas reçu quelques lettres anonymes ? Ça n'aurait rien d'étonnant qu'il fût mêlé à l'odieuse et anonyme campagne qui se dessine contre nous. Je vais donc le recevoir, et comme il est absolument indispensable que tu sois au courant de tous les détails de cette entrevue, dès qu'il se présentera, je te demanderai de passer dans la bibliothèque, de laisser ouverte la porte derrière la tapisserie et d'écouter attentivement notre conversation, de façon que si tu juges utile à un certain moment d'intervenir, tu le fasses en pleine liberté d'action. « Mon cher ami, répliquait la belle Antoinette, je ferai tout ce que tu me diras, car je ne suis pas moins pressé que toi de finir avec cette belle histoire. » On frappait à la porte. C'était le valet de chambre, Cyprien, qui venait annoncer que le capitaine Jacques Moret était là. Immédiatement, Madame Avrier s'enfuit dans la bibliothèque et le père de Martine donna l'ordre d'introduire immédiatement le jeune aviateur dans son bureau. Lorsque Jacques Moret parut, M. Avrier remarqua tout de suite que malgré son air naturellement résolu, il semblait hanté par un grave souci. Il était légèrement pâle et l'aspect de sa physionomie, généralement empreinte de bonne humeur et d'allant, portait les marques d'une réelle tristesse. Très accueillant, l'industriel lui disait « Soyez le bienvenu, mon cher ami !» Et lui indiquant un siège placé en face de lui, il ajouta « Asseyez-vous, exposez-moi le but de votre démarche. « Monsieur, déclarait l'aviateur, vous avez devant vous un homme très malheureux. Et pourquoi donc ? Interrogeait Florent. Sur un ton frémissant d'une sourde colère, Jacques ripostait. Je suis l'objet d'une abominable calomnie, et j'en suis d'autant plus indigné qu'elle tente à salir outrageusement la femme de mon bienfaiteur, c'est-à-dire Madame Avrier. » Cette phrase, proférée avec un accent dont la sincérité ne pouvait être mise en doute, produisit sur l'industriel un excellent effet. Tout de suite, il répondit « Je vous sais gré de votre franchise. Bien que ma femme soit au-dessus de tout soupçon, il est infiniment préférable que je sois prévenu des bruits fâcheux que l'on colporte sur elle, car cela va me permettre de la défendre contre ceux qui commettent l'infamie de l'attaquer. C'est uniquement dans ce but, reprenait l'aviateur, que je me suis permis de vous demander cet entretien. Parlez, et surtout ne craignez pas de tout me dire. S'il y a un abcès, crevons-le, vidons-le, c'est le seul moyen de la guérir. Mis à l'aise par ces déclarations dont la brutale franchise convenait à son caractère non moins loyal, Jacques Moret reprenait. « Monsieur, je dois d'abord vous dire que j'ai une amie. Je le savais. Et une amie à laquelle je suis attaché par des liens si puissants et si tendres que rien ne pourra jamais les rompre. Je le savais également. Peut-être avez-vous appris aussi qu'elle méritait l'attachement que je lui ai voué. Mais on me l'a dit également. » Et que si elle n'était pas aujourd'hui ma femme, c'est uniquement parce qu'elle ne voulait pas être une cause de brouille entre ma famille et moi. L'industriel déclarait « Oui, je suis au courant de tout cela, et je ne vous cacherai pas que je vous approuve et même que j'apprécie infiniment l'attitude si noble et si désintéressée de votre compagne. » « Alors, monsieur, s'écriait Jacques, vous me mettez tout à fait à mon aise pour continuer. et tirant de sa poche un papier plié en quatre, il dit « Veuillez prendre connaissance de cette lettre que mon ami a reçue hier soir. Elle vous précisera mieux que je ne saurais le faire les raisons qui m'ont ramené ici. » Monsieur Avrier prit le papier, le déploya et lut avec la plus grande attention. Quand il eut terminé, il dit simplement « Ne suis nullement surpris que vous ayez reçu ce message. Moi-même, j'en ai reçu un hier qui contenait les mêmes accusations. Et ma fille, elle aussi, a trouvé sur sa coiffeuse une lettre tapée à la machine, comme la vôtre, et qui la prévenait que vous étiez amoureux fou de sa mère et que, par conséquent, elle n'avait pas à se laisser aller à l'espoir d'être un jour votre fiancée. « Ah !» s'exclamait le jeune as. « Madame Avrillet a reçu également. » Il s'arrêta net, visiblement troublé. « N'est-ce pas que c'est ignoble ?» s'écriait l'industriel. « Ignoble, en effet !» scandait l'aviateur, tout en le fixant bien dans les yeux. Florent, qui n'avait pas été sans remarquer l'effet qu'avait produit sur lui la nouvelle que Martine avait reçue, elle aussi, une lettre anonyme, reprenait toujours d'un ton plein de bienveillance. « C'est tout ce que vous avez à me communiquer. » Sans la moindre hésitation et cédant à l'impulsion de sa conscience, Jacques Moret s'écriait « Oh non, monsieur, ce n'est pas tout. Hier soir, une demi-heure avant que je vous eusse téléphoné, mademoiselle votre fille me demandait à l'appareil. Et où cela ? Chez mademoiselle Marie-Louise Thomery, mon amie. Que me dites-vous là ? La vérité, monsieur, je vous le jure. Et que vous a dit ma fille ? Elle m'a affirmé qu'elle avait appris que je courtisais madame Avrier. Et comme je lui demandais qui avait bien pu lui dire une chose pareille, elle m'a répondu que si je voulais le savoir, je n'avais qu'à me trouver le lendemain matin à 10 heures devant l'entrée du pré Catelan et qu'elle me donnerait tous les éclaircissements nécessaires. D'une voix tremblante de surprise et de crainte, l'industriel reprenait. « Mais c'est effrayant ce que vous me dites là. Comment Martine aurait ?» Mais madame Avrier, se précipitant dans le cabinet de travail de son mari, s'écriait « Non, non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Lieutenant, vous mentez. Ma fille est incapable d'une pareille chose. » « Madame, déclarait affirmativement Jacques Moret, si j'avais prévu que vous puissiez entendre ce que je viens de dire à monsieur Avrier, j'aurais gardé le silence. » Car il m'eût été trop douloureux de causer à une mère telle que vous le terrible chagrin que je lui fais sans le vouloir. » Fièrement, Antoinette ripostait. « Mais ce n'est pas le chagrin, monsieur, car je suis persuadé que ma fille est au-dessus de tout soupçon. Elle est incapable d'avoir commis l'acte que vous lui imputez. Voilà pourquoi je proteste avec véhémence contre vos paroles, qui, je vous le répète, ne peuvent être que mensonges. « Madame, s'écriait Jacques Moret en relevant fièrement la tête, tous ceux qui me connaissent et qui m'estiment vous diront que je n'ai jamais menti. Alors vous persistez à prétendre que ma fille vous a téléphoné hier soir dans les termes que vous avez répétés à mon mari. Oui, madame. Mais vous êtes un misérable. » Se levant, M. Affrier intervenait. « À mon tour, lieutenant, de vous poser une question. Êtes-vous sûr d'avoir reconnu dans le téléphone la voix de ma fille ?»« Oh oui, monsieur, répondit Jacques Moret sans la moindre hésitation. Cependant, on peut se tromper. Peut-être avez-vous été victime d'une supercherie qui ne serait que la suite de la campagne menée contre nous. Je le souhaite de grand cœur, monsieur, déclarait le jeune aviateur. Mais je n'ose vous l'affirmer, car en ce cas, il faudrait que la personne qui m'aurait téléphoné au lieu et place de mademoiselle votre fille eût imité d'une façon prodigieuse le timbre, les intonations de sa voix, jusqu'à ce très léger zézément qui caractérise sa façon de parler. Cette fois, Madame Avrier se sentit glacée d'un petit frisson. L'aviateur lui paraissait tellement formel, tellement sincère, qu'elle commençait à se demander avec effroi si la lettre anonyme n'avait pas dit la vérité. « Ma fille serait-elle jalouse de moi ?» se demandait-elle. Et elle dirigea vers son mari un regard lourd d'angoisse maternelle. Elle comprit à celui de Florent que lui aussi partageait son doute. Et d'un ton moins agressif, moins irrité, moins profondément douloureux, elle fit « Le mieux serait d'interroger Martine ?»« Oh oui !» répondit l'industriel d'une voix sourde, « il faut l'interroger !»« Lieutenant Moret, je vous demande de vous retirer dans une pièce voisine, pendant que ma femme et moi nous allons causer avec notre fille de certaines questions auxquelles il lui serait peut-être pénible de nous répondre devant vous. » « Très volontiers, » répliqua le jeune aviateur. Et se tournant vers Madame Avrier, il fit « Je vous demande encore pardon, madame, du chagrin que je vous cause involontairement. Nul plus que moi, je vous le jure, ne souhaite que ce ne soit pas mademoiselle votre fille qui m'a téléphoné. « Nous allons le savoir de suite, » déclarait la belle Madame Avrier d'un ton sec. Monsieur Avrier se dirigea vers une porte qu'il ouvrit et fit passer le jeune aviateur dans un salon somptueusement meublé. Puis il lui dit « Je viendrai vous retrouver tout à l'heure. Ah, je voudrais bien être plus vieux de quelques minutes. » Il s'en fut rejoindre sa femme et il lui dit « As-tu fait demander Martine ?»«
Non, » répliqua Madame Avrier, « car j'ai quelque chose d'important à te dire avant qu'elle ne descende. »
« Parle, je t'en prie, mon ami. »
« Je me demande si le lieutenant Jacques Moret ne joue pas dans cette affaire un rôle des plus louches. »«
Comment cela ?»«
Ben, il vit maritalement avec une femme dont il ne peut se séparer. »« Qui te dit qu'il n'a pas précisément inventé toute cette histoire, forgé ce scandale pour provoquer entre sa maîtresse et lui une scène violente qui lui permettra de rompre avec elle ?»
« Je ne pense pas, » répondait nettement M. Avrier. « D'abord, je crois bien connaître Jacques Moret, et je suis persuadé qu'il est incapable d'une pareille infamie. Et puis tout à l'heure, il m'a affirmé avec une émotion d'autant plus impressionnante qu'elle était contenue, qu'il était attaché à son ami par des liens que rien ne pouvait briser. Oh, n'est-ce point de sa part une manœuvre ?» s'écriait la mère, désemparée.
« Alors, martelait l'industriel, il faudrait douter de tout. Voyons, réfléchis, ma chère Antoinette. Un homme qui n'a pas une seule faute contre l'honneur à se reprocher, qui vient au péril de sa vie d'accomplir un exploit destiné à demeurer historique, qui m'a refusé une situation magnifique dans mon usine, auprès de moi, situation qu'il ne retrouvera jamais. » Et tout cela pour continuer sa carrière d'aviateur, pour enrichir encore son casier de prouesse, et tout cela au péril de ses jours. Eh bien non, non, un tel héros est incapable de salir une honnête femme, et encore moins une jeune fille.
C'est vrai, reconnaissait la mère de Martine, je n'avais pas songé à tout cela, et je regrette vivement d'avoir parlé si durement à ce pauvre garçon. Mais que veux-tu, je ne sais plus. « Je m'égare. J'ai beau chercher, je ne trouve rien. Alors je me raccroche à la première idée, au premier soupçon qui me passe par la tête. Je deviens injuste, oui, j'en arrive à accuser un homme qui, ainsi que tu viens de me le démontrer, devrait rester au-dessus de tout soupçon. Je te demande pardon, mon pauvre ami, mais c'est fini, il faut que je sois forte, comme tu l'es. « Toi-même, tu me le disais hier encore, d'une façon si touchante. Tu as besoin que je sois auprès de toi, de sentir mon courage égal au tien, mon cœur à l'unisson de ton cœur, ma volonté pareille à la tienne. Ne m'en veux pas de cet instant. Je ne dirai pas de défaillance, mais d'aberration. Désormais, j'imposerai silence à mes nerfs. Je serai calme, aussi calme qu'hier, je te demandais de l'être. Il le faut. Je le sens pour notre bonheur à tous les trois.
Ma chérie, dit simplement l'industriel en saisissant la main de sa femme qui s'était posée sur son épaule et la portant jusqu'à ses lèvres. Puis il reprit.
Bien maintenant, fais dire à Martine de venir nous parler.
Je vais la chercher.
Surtout ne lui dis rien. Je tiens à l'interroger moi-même.
Madame Avoyer s'en fut. Florent se mit à arpenter à grands pas son cabinet. Il était en proie à un trouble indicible. Il se disait en effet, « Mais Martine est incapable d'un acte pareil. » D'autre part, Moret est incapable d'une aussi odieuse calomnie, alors. Oh, s'il n'avait pas été aussi affirmatif au sujet de l'avoir entendu dans le téléphone, je n'hésiterais pas une seule minute, tout en reconnaissant sa bonne foi, à déclarer qu'il a été trompé. Mais les détails qu'il nous a donnés sont tellement précis que je ne sais plus. J'ignore qui conduit cette campagne, mais si je le tenais, je l'étranglerais sans pitié. Madame Avrier reparaissait avec Martine. Le visage souriant que lui présenta sa fille indiqua tout de suite à l'industriel que sa femme lui avait tenu parole et qu'elle ne lui avait encore rien dit. Avec une gravité que tempérait toute sa tendresse paternelle, mise cependant à une si cruelle épreuve, Florent attaquait.
« Ma chère enfant, je vais te poser une question à laquelle je te prie de me répondre avec toute la franchise dont tu es capable. Hier soir, vers 10 heures, oui ou non, as-tu téléphoné au lieutenant Jacques Moret ?» La jeune fille eut un mouvement de stupeur, puis elle reprit.
« J'ai téléphoné à Jacques Moret ? Père, qui a pu te dire un mensonge pareil ?»«
Peu importe. Peux-tu nous jurer, ma chère petite, sur notre tête à tous les deux, que tu n'as pas donné ce coup de téléphone ?»
Sans la moindre réticence, d'un seul élan, Martine s'écriait.
« Je vous le jure. D'ailleurs, je suis monté vers 10 heures moins le quart dans ma chambre et je ne l'ai pas quitté jusqu'à ce matin 8 heures. Pour téléphoner à M. Jacques Moret ou à toute autre personne, il eût fallu que je descendisse, ou dans la chambre de mère, ou au boudoir du rez-de-chaussée, ou dans ton bureau, ou au standard. On m'aurait vu, on m'aurait entendu.
Mon enfant, interrompait Madame Avrier, en enveloppant d'un regard de tendresse rassuré sa fille, dont l'attitude et l'accent n'avaient jamais été aussi candides.
Tu n'as pas besoin de nous en dire davantage. Ton père et moi, nous te croyons. D'ailleurs, nous n'avons jamais douté de toi, mon enfant. Merci, s'écria Martine en se jetant dans les bras de sa mère.
Puis, après l'avoir embrassée, elle fit.
Puis-je savoir maintenant qui a pu inspirer une telle calomnie ?
« Demande à ton père, » répliquait la belle Antoinette.
« Oh, encore une lettre anonyme !» questionnait la jeune fille en se retournant vers Florent.
« Non !»
répondait celui-ci.
« Alors, si tu me promets de ne pas t'énerver, je vais tout te dire. »« Père, je m'y engage, » affirmait Martine avec beaucoup de douceur.
L'industriel reprenait. Bien, j'ai reçu tout à l'heure la visite du lieutenant Moret, qui m'a déclaré qu'hier soir, à 10 heures, tu lui avais téléphoné pour lui dire que tu savais qu'il courtisait ta mère.
Mais c'est abominable,
interrompait Martine en un sursaut de révolte.
Comment le lieutenant Moret a-t-il pu me croire un seul instant capable de...
Des larmes jaillirent de ses yeux. « Et toi, observait son père, toi qui m'avais promis de ne pas être nerveuse. » Avec une violence qui surprit d'autant plus les siens que, jusqu'alors, elle avait toujours été la douceur même, la jeune fille martela.
Je veux voir le lieutenant Moret, oui, je veux savoir si l'autre a persisté devant moi dans ses accusations. » Et avec une expression de mépris et de haine qui acheva de la transformer entièrement, Martine ajouta: « Mon instinct ne m'avait pas trompé. Je vous ai dit, n'est-ce pas, combien il m'était antipathique. Vous voyez que j'avais raison. »
Florent insinuait: « Il se peut qu'il soit de bonne foi. »
« Père, répliquait Mademoiselle Avrier, je suis surprise, après ce qu'il m'a fait, que tu cherches à le défendre. » « Sa compagne, déclarait Antoinette, a reçu elle aussi une lettre anonyme, produisant les mêmes accusations que contre celles que vous aviez reçues, ton père et toi. »
Avec véhémence, Mademoiselle Avrier s'écriait:
« Oh, qui sait, si, prévoyant un scandale, il n'a pas voulu le faire éclater plus vite, afin d'en finir avec une situation qui lui était devenue difficile et peut-être même insupportable. J'ai eu moi-même cette pensée, révélait Madame Avrier. Mais après ce que le lieutenant m'aurait dit à ton père, j'ai complètement changé d'avis. Qu'a-t-il dit? Questionnait âprement la jeune fille.
Gravement, Florent répondait: eh bien, qu'il aimait sa compagne et qu'il l'eût déjà épousée, si elle y avait consenti, mais que c'était elle qui, pour ne pas le brouiller avec les siens, se refusait à ce mariage, et qui lui était attachée par les liens trop puissants et trop tendres. Oui, ce sont ses propres paroles, pour songer jamais à la quitter. Et avec un accent de conviction absolue, l'industriel ajouta: un homme qui est aimé de pareils sentiments n'envoie pas à la femme qu'il aime des êtres anonymes qui ne peuvent avoir pour résultat que de lui causer un vif chagrin et de semer le doute en elle. Réfléchis, ma chérie. Si, comme tu sembles le croire, Jacques Moret était l'instigateur de ce complot, il n'aurait pas eu le cynisme de venir m'apporter lui-même la lettre anonyme que son ami avait reçue. À moins d'être le plus abominable des gredins, ce que je ne puis pas supposer un seul instant, il n'eût ni parlé ni agi ainsi qu'il l'a fait. N'est-ce pas ton avis, ma chère Antoinette?
Entièrement, approuvait Madame Avrier.
Martine, qui s'était calmée, concédait:
évidemment, père, tout ce que tu me dis est comme toujours marqué au coin de la logique et du bon sens. Oui, j'ai eu tort de m'emballer ainsi. Mais pourquoi le lieutenant Moret a-t-il prétendu que je lui avais téléphoné hier soir, quand ce n'est pas vrai?
Il va te le dire lui-même, annonçait M. Avrier.
À quoi bon?
Ponctuait la jeune fille, qui ne semblait plus aussi désireuse d'une confrontation avec l'aviateur. Et elle ajouta, non sans amertume:
puisque vous m'affirmez que le lieutenant Moret n'est pour rien dans cette histoire, je ne vois plus la nécessité d'une explication entre nous.
Ma chère enfant, reprenait l'industriel, je la considère au contraire comme indispensable, car il ne faut pas qu'il existe la moindre arrière-pensée dans ton esprit, pas plus que dans le sien. Ta mère et moi, nous sommes sûrs que tu n'as pas téléphoné au lieutenant. D'abord parce que nous le savons incapable d'un geste aussi blâmable, je dirais même aussi équivoque, puis parce que tu nous l'as juré sur notre tête à tous les deux, et qu'un tel parjure serait de ta part un acte si inattendu, si effroyable, que je ne peux pas me figurer qu'il soit possible. Mais moi, ton père, et je lis dans le cœur de ta chère maman qu'elle pense comme moi, j'estime qu'il faut que le lieutenant Moret soit convaincu lui aussi, autant que nous le sommes, que tu es complètement étrangère à l'odieuse et lâche mystification dont il a été l'objet. Et toi seul, tu peux lui en donner l'assurance. C'est ton devoir de le faire. Tu n'hésiteras pas à l'accomplir. Martine regarda sa mère. Celle-ci lui dit:
Fais ce que te demande ton père. Je ne t'aurais pas parlé autrement.
Je ne puis que vous obéir, déclara Mademoiselle Avrier. Un sanglot souleva sa poitrine.
Ma chérie, fit sa mère en l'attirant dans ses bras, si tu te sens encore trop bouleversée, veux-tu que nous remettions à cet après-midi ou à demain cette entrevue?
Non, refusait Martine. Mieux vaut en finir tout de suite. Veuillez appeler le lieutenant Moret.
Tandis que M. Avrier s'en allait chercher l'aviateur, Martine essuya ses yeux. Puis elle dit à sa mère, qui la contemplait avec la plus tendre et la plus maternelle des pitiés,
« Quoi qu'il en soit, je ne pourrai plus jamais revoir le lieutenant Moret. »
« Mais pourquoi ?» interrogeait la belle Antoinette.
« Parce qu'il me sera impossible d'oublier que c'est lui qui m'a causé mon premier chagrin. »«
Je suis certaine, » émettait Madame Avrier, « qu'en quelques minutes d'explication, le malentendu sera dissipé. »«
Et je le souhaite. »« Le lieutenant Moret et toi, vous n'êtes pas fait pour vous haïr. »
D'ailleurs, je suis fort tranquille à ce sujet. La haine est un trop vilain sentiment pour trouver jamais place en ton âme. »
L'industriel revenait avec l'aviateur. Celui-ci avait conservé son attitude grave, sans forfanterie. Il s'inclina respectueusement devant Martine, qui, debout près de sa mère, répondit d'un léger mouvement de tête à son salut. D'un ton respectueux mais plein de fermeté, le jeune héros de l'air attaquait. « Monsieur Avrier vient de me dire, mademoiselle, que vous désiriez avoir une explication avec moi. M'y soustraire eût été une lâcheté, d'autant plus qu'elle ne comporte de ma part que des excuses. » À ces mots, Martine ouvrit tout grand les yeux qu'elle tenait à demi fermés. Et voilà que Jacques Moret plaidait coupable. Elle en parut aussitôt grandement rassérénée. L'aviateur poursuivait, toujours avec le même sang-froid, avec la même déférence. « Monsieur votre père, en effet, m'a dit que vous avez fait serment sur sa tête ainsi que sur celle de madame votre mère, que vous étiez absolument étrangère au coup de téléphone que j'ai reçu hier soir. Après cela, mademoiselle, comment pourrais-je douter un seul instant que j'étais la victime d'une supercherie inqualifiable? Je me reproche même amèrement de ne pas y avoir songé plus tôt. Trompé par d'astucieuses apparences, je sollicite de votre part mieux que votre indulgence, et j'ose espérer que vous ne refuserez pas de me l'accorder.
« Lieutenant, répondait Martine, vous m'avez fait beaucoup de peine. »
« Mais j'en suis navré !» s'écriait avec élan le jeune aviateur. « Et je ne sais comment en réparer !»«
Je vous pardonne en raison de votre bonne foi et de vos regrets, » déclarait la jeune fille. « Qu'il ne soit plus question de cela. »«
Je vous remercie, mademoiselle. »
« Un mot, cependant. Vous avez dit à mes parents que la personne qui vous avait téléphoné avait mon timbre de voix, mes intonations et ma façon de parler. »
« Oui, mademoiselle, répliqua nettement Jacques Moret, et c'est de là que provient ma déplorable erreur.
Il faut donc, concluait Martine, que la coupable me connaisse fort bien. »
« En effet, appuya l'industriel, et cela prouve que les attaques sont à la fois dirigées contre nous et le lieutenant Moret. Maintenant, leur but m'apparaît très clairement. On veut brouiller le pilote et le constructeur qui ont remporté ensemble la victoire. Mais on n'y parviendra pas.
Ce qu'il faut avant tout, s'exclamait Jacques, réconforté et même galvanisé par ces mots que Florent Avrier avait prononcés avec un accent de volonté farouche. Ce qu'il faut, c'est démasquer les misérables qui n'ont pas reculé devant l'emploi de procédés aussi révoltants.
« Parfaitement, acquiesçait Florent. Mais n'allons pas trop vite. Nous avons affaire à des gens qui n'hésiteront devant aucune infamie pour atteindre leur objectif. Découvrir l'auteur de ces lettres anonymes et taper à la machine
est une besogne très délicate, très difficile, même pour un routier de la police. Demeurons dans l'expectative. Montrons, ce qui est d'ailleurs la vérité, que nous méprisons leurs attaques et que nous nous plaçons au-dessus de leurs calomnies. De deux choses l'une, ou ils se tiendront tranquilles et tout sera dit, ou bien ils récidiveront et alors... Oh, j'agirai, vous pourrez en être sûr, et je vous jure que tout se paiera et fort cher, je m'en charge.
Cher monsieur Avrier, déclarait le jeune aviateur, votre tactique est excellente, et soyez certain que je m'y conformerai scrupuleusement.
L'industriel tendit la main à Jacques Moret, qui la serra chaleureusement. Puis l'aviateur salua tour à tour Madame Avrier et sa fille, qui lui répondirent, l'une avec une franche sympathie, l'autre avec un sourire un peu contraint. Lorsqu'il se fut retiré, M. Avrier s'écria avec satisfaction, « Voilà un premier nuage dissipé !» Et il était d'importance. Madame Avrier reprenait,
« Il n'y a rien de tel entre braves gens qu'une explication loyale. »
Et s'adressant à Martine, qui était redevenue pensive, elle ajouta,
« Toi aussi, ma chérie, tu dois être contente. »«
Oui, mère, » répondit Martine, sans la moindre conviction.
« Mais qu'as-tu encore ?»«
Rien. »«
Mais si, ma petite, » intervenait le père. « Depuis 48 heures, tu es transformée à un point que je ne te reconnais plus. »«
Bon, je comprends que ces histoires de lettres anonymes et ce coup de téléphone t'aient bouleversé, mais après... » Ce qui vient de se passer, tu devrais être tranquillisé.
Et au contraire, tu sembles plus triste, plus abattu, plus découragé que tout à l'heure.
Mais qu'y a-t-il, ma petite Martine? Que se passe-t-il en toi?
Oui, parle, insistait Madame Brier. Tu sais bien que tu n'as pas de meilleurs amis que nous deux.
Faisant un visible effort sur elle-même, Martine reprenait.
Tout à l'heure, j'ai déclaré au lieutenant Jacques Moret que je lui pardonnais.
Oui, eh bien, scandait l'industriel. La jeune fille poursuivait.
Si je l'ai fait, c'est surtout parce que vous sembliez tous deux le désirer vivement. Je n'ai pas voulu créer de difficultés entre mon père et monsieur Moret à un moment où leur bon accord est plus nécessaire que jamais à la continuation de leur succès commun.
Je te sais gré, ma fille, de la nouvelle preuve d'affection, de dévouement et d'intelligence que tu me donnes. Sans colère et même sans acrimonie, Martine reprenait.
Mais je n'ai pas oublié la blessure que m'a faite, même sans le vouloir, le lieutenant Moret est trop récente et trop profonde pour être déjà cicatrisée. Voilà pourquoi je vous demande, tout en restant en relation d'affaires avec lui, de ne plus le recevoir dans votre intimité. Sa présence, sa vue, me serait infiniment désagréable.
Madame Avrier, qui n'avait pas cessé d'observer sa fille avec une grande attention, s'écriait en la fixant bien dans les yeux,
en es-tu bien sûr? Oui, mère. Mais pourtant, la façon dont il t'a présenté ses excuses aurait dû te désarmer. Je ne veux plus le voir.
Martine, ainsi que le constatait ton père il n'y a qu'un instant, tu n'es plus reconnaissable.
Toi, si douce, si bonne, toi dont l'âme de cristal me laissait lire jusqu'en tes plus intimes pensées, toi en qui je ne découvrais que tendresse, franchise, joie de vivre, désir de nous rendre heureux, maintenant tu n'es plus qu'un petit être révolté, et qui, à mesure qu'on lui parle, et Dieu sait avec quelle affection, quelle bonté, se contracte, se renferme, se dérobe d'une façon désespérante.
Et presque sévèrement, cette fois, elle ajouta,
tu as bien tort de manquer de confiance envers ton père et moi. Tu souffres, oh, tu souffres même beaucoup. Ne le nie pas, j'en suis sûr. Et ce n'est pas seulement d'une blessure d'amour-propre.
qui, puisque le malentendu est dissipé, devrait être guéri, mais d'une douleur que seul peut inspirer un premier amour malheureux. « Mère !» s'écriait Martine en pâlissant tout à coup. « Avoue que tu aimes le lieutenant Moret. Lui, oh, je le déteste. Tu crois le détester. Parce qu'il aime l'autre femme et qu'il ne veut pas la quitter. Non, mère, ce n'est pas cela. » Et avec une soudaine exaltation, elle fit « Oui, j'aime, c'est vrai. » « Et qui donc ?» tressaillit Madame Avrier. « Le capitaine de Monthermé. »«
Le capitaine de Monthermé ?» répétait Florent.
« Oui, père. Et il m'aime, lui aussi. »«
Comment ?» s'exclamait l'industriel. « Il a osé te dire... »«
Non, il m'a rien dit, mais je l'ai deviné. »
« Mais depuis quand ?» interrogeait Antoinette. « As-tu senti naître en toi ce sentiment ?» Redevenue l'exquise ingénue qu'elle avait toujours été jusqu'à ces derniers temps, Martine déclarait
« Je ne saurais trop vous le dire. Cela est venu peu à peu, insensiblement, mais irrésistiblement. Je sentais que je ne pouvais plus me défendre. C'était comme du rêve qui m'enveloppait. »
Madame Avrier demandait
« Mais comment t'es-tu aperçu que le capitaine de Monthermé avait une inclination pour toi ?»« À ce regard, il est de ceux qui ne peuvent s'en mentir, et bien que le capitaine se soit efforcé de me calmer, encore mieux qu'à tout autre, l'amour que je lui ai inspiré, il n'est pas parvenu à me dérober son secret. » Il lui a échappé, sans qu'il le voulait, sans qu'il s'en doutât.
« Et lui, sait-il ?»
questionnait Florent.
« Non, il est même très jaloux du lieutenant Moret, ce qui prouve que nos autres femmes, même lorsque nous ne sommes encore que des petites jeunes filles, nous n'avons plus de clairvoyance que les hommes.
« Et pourquoi ne nous as-tu pas averti plus tôt ?» observait l'industriel.
Je n'osais pas.
Je t'intimide donc à ce point?
Oh oui, beaucoup.
Alors pourquoi n'as-tu pas tout dit à ta mère? Ne devait-elle pas être ta première confidente?
Martine répliquait.
Je n'ai rien voulu dire parce que souvent, père, vous aviez répété devant moi que j'étais beaucoup trop jeune pour me marier. « Je n'ignore pas que lorsque vous avez pris une décision, vous n'avez guère à en changer. »«
Non, s'il s'agit du bonheur de ce que j'aime, » rectifia l'industriel avec bienveillance.
« Alors vous consentiriez ?» interrogeait Martine.
« Oui, » répliquait son père, « si toutefois ta mère n'y voit pas d'objection. »«
Aucune, » répliquait Madame Avrier. Monsieur de Monthermé est un de ces hommes d'élite auxquels une mère peut en toute sécurité confier l'avenir de sa fille, et je serais, pour ma part, très heureuse et même très fière de l'avoir pour gendre.
En ce cas, reprenait Florent, ne nous reste plus qu'à lui faire comprendre qu'il sera favorablement agréé. C'est une question très délicate, et je crois que le mieux serait, ma petite Martine, que ce fut toi qui, avec tout le tact et toute l'adresse dont tu es capable, lui fit deviner qu'il peut, sans craindre un refus de la part de personne, se risquer à nous demander ta main.
« Mais père, je n'oserai jamais !» déclarait la jeune fille en rougissant. « Enfin !» s'écriait Madame Avrier, « j'ai retrouvé ma petite Martine. Le mauvais rêve que nous venons de vivre est enfin dissipé. Ne pensons plus aux heures douloureuses que nous venons de traverser.
« Et maintenant, » s'écria l'industriel, « es-tu enfin heureuse, ma petite chérie ?»«
Oui, très heureuse, père, » affirma la jeune fille, dont les yeux s'emplirent de larmes
que les siens prirent pour des larmes de joie. En était-il vraiment ainsi? C'est ce que nous ne tarderons pas à connaître.